Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. À quelle sauce allons-nous être mangés pour les prochaines semaines après le Conseil de défense qui s'est tenu ce matin? Jean Castex et Olivier Véran vont donner une nouvelle conférence de presse ce soir à 19h pour préciser quelles mesures de restriction seront levées et quand. Il s'agit pour le Premier ministre de redonner une perspective d'allègement aux Français. Bien sûr, rien n'est innocent à moins de 3 mois de la présidentielle. Le préalable à la candidature d'Emmanuel Macron étant évidemment que la situation sanitaire soit moins alarmante. Parmi les questions ce soir, avons-nous ou pas atteint le pic de cette vague Omicron? Difficile de le dire car le nombre de contaminations est encore à un niveau record. Les patients hospitalisés sont nombreux, mais le signe encourageant, c'est que le nombre de patients en réanimation est lui en nette diminution. Le nombre de tests est d'autre part toujours extrêmement élevé. 11,3 millions de personnes se sont fait tester la semaine dernière. Faut-il continuer à se faire dépister à tout prix? On entendra le docteur Benjamin Davido qui estime que le dépistage en masse ne sert aujourd'hui plus à rien. Dans l'actualité également, le choc au lycée Paul-Émile Victor de Champagnole dans le Jura où 4 jeunes ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Ils sont restés prisonniers de leur véhicule qui a plongé dans un lac après un dérapage sur une route verglacée. Un 5e lycéen qui a pu s'en extraire a par la suite donné l'alerte. On sera sur place dans un instant pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame. Les chiffres de l'immigration. En 2021, le nombre de demandes d'asile est reparti à la hausse, plus 28,3% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un nombre qui reste en deçà de l'avant-crise sanitaire. L'an dernier, par ailleurs, 52 000 migrants ont tenté de traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Et puis on reviendra sur le grand malaise, le blues dans la police. Déjà 7 suicides de policiers en 2022, rien que sur la journée de mardi. 2 gardiens de la paix de 36 et 43 ans ont mis fin à leur jour à Lille et à Strasbourg. On tentera de comprendre la charge de stress qui pèse sur leurs épaules et la façon dont ils sont épaulés, pris en charge par leur hiérarchie. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va l'évoquer avec mes invités ce soir. Nous sommes avec Karim Zerebi, bonsoir.
Bonsoir, Laurent.
Consultant CNews. Christian Proutot nous a rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de sécurité et fondateur du GIGN. Alexandre Devecchio, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro.
Bonsoir,
et Céline
Laurence.
Pina, fondatrice
bonsoir.
De Vivre la République. Merci à tous les quatre d'être là. Tout de suite, faut-il lever au plus vite les mesures de restriction qui sont en vigueur dans notre pays, et cela dès le mois de janvier? On entendra le Premier ministre à 19h. Et puis aussi, faut-il arrêter de faire des tests à tour de bras? Cela coûte plus d'1 milliard d'euros chaque mois en France. On va en débattre ce soir. Et tout de suite, on écoute le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Le dépistage ne sert à rien. C'est un délancé. C'est une fois sur deux, c'est faire le test ou pas le faire. Vous n'avez pas la réponse. Dans mon entourage, je vois de plus en plus, y compris même des soignants, qui en sont au 4e test pour s'avérer positif alors qu'ils ont des symptômes, c'est-à-dire au 4e jour de la maladie. Entre-temps, vous avez contaminé pléthore d'individus. Je pense qu'il faut recentraliser une politique de dépistage sur les symptomatiques avec une consultation d'un médecin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas contacts, tout le monde est cas contact, il y a 10% de la population. Il faut enlever les cas contacts de cette politique de test qui n'apporte rien. Il faut enlever les asymptomatiques qui sont majoritairement des cas contacts et ensuite aller vers ce qui est nécessaire et ce qui restera, on l'a dit tout à l'heure, des gens avec des facteurs de risque de faire une forme grave pour laquelle il est important de faire le diagnostic de la maladie. Quand vous arrivez aux urgences, si vous avez un Covid, si vous avez une grippe, si vous avez un bronchiolite ou une bactérie, ce n'est pas la même prise en charge. Et puis, en réalité, s'inscrire sur comment faire pour miser en termes de santé publique sur une médecine de prévention face à cette maladie. Et aujourd'hui, les tests n'empêchent pas de tomber malade. Encore une fois, le pass vaccinal, qui souvent a été expliqué comme étant un outil que pour les non-vaccinés, il reste en fait, paradoxalement, le meilleur outil qu'on a pour une politique sans test. Je m'explique, c'est qu'en fait, soit vous avez un certificat d'immunité, soit vous êtes vacciné. Et donc, on ne teste plus les gens. Donc, c'est bien le succès de la vaccination. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on teste tout le monde?
Donc, il faut continuer le pass vaccinal.
Si on met un pass vaccinal, ça veut dire qu'on ne teste plus. Donc, si on ne teste plus, il faut aller plus loin et ne plus tester les gens tous les jours.
Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit le docteur Davido. On en débat ce soir dans Punchline.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue aux auditeurs d'Europe 1, aux téléspectateurs de CNews. On parle évidemment de ces questions de santé avec à nouveau Jean Castex et Olivier Véran qui dans 1 heure pile vont nous annoncer comment les mesures de restriction seront levées. Loïc Signor, vous êtes avec nous du service politique de CNews. Bonsoir Loïc. Alors que peut dire Jean Castex? Comment il va égrener toutes les nouvelles dans les prochaines semaines?
un calendrier précis et resserré. C'est le premier renseignement à une heure de la conférence de presse de Jean Castex. Ça a été acté par le président de la République en Conseil de défense sanitaire ce matin. Autrement dit, il y aura une levée des mesures dans un temps assez court. On ne va pas aller jusqu'en mai, par exemple, pour les patrons de boîtes de nuit. Des mesures cohérentes et de la lisibilité pour tout le monde. Exercice donc très politique pour le Premier ministre, hein, évidemment. On le sait, à l'approche de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, il faut emporter l'adhésion des Français, esquisser le cap de sortie des deux vagues. Voilà ce que m'expliquait un conseiller du président de la République. La fin de la vague Delta et la fin de la vague Omicron. Il faut faire des choix proportionnés, me confie tout encore dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, Laurence, il va falloir donner du sens à ces mesures qui vont se prolonger pour deux semaines sans ajouter de nouvelles restrictions. La fin, à l'origine, c'était pour le 23 janvier à minuit. On part vraisemblablement jusqu'au 7 février avec ces mesures, le télétravail, les jauges dans les salles de spectacle ou encore dans les stades, la fermeture des boîtes de nuit. Et puis enfin, évidemment, Jean Castex essaiera de donner du sens et de la logique à l'entrée en vigueur du pass vaccinal.
Encore une petite question, Loïc. Est-ce que le calendrier peut bousculer les plans d'Emmanuel Macron pour la présidentielle? En gros, son annonce de candidature, évidemment.
Ah oui, bien sûr, Laurence, c'est évident parce que Emmanuel Macron l'a toujours dit, il ne peut pas être président jusqu'au dernier quart d'heure avec cette pandémie qui dure et avec ses taux de contamination, ses services de soins critiques toujours engorgés, même si cela va mieux de ce point de vue-là, et être candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que dans son entourage, on visait la fin du mois de janvier, le début du mois de février, mais avec la prolongation de ces mesures pour au moins deux semaines, eh bien, il faudra regarder très attentivement le calendrier que va dévoiler le Premier ministre dans une heure maintenant, pour peut-être essayer d'entrevoir la fenêtre de tir pour le président de la République, pour lui, enfin, le moment de descendre le moment le plus opportun de descendre dans l'arène politique, celle de la campagne présidentielle.
Merci beaucoup Loïc Signor pour ces précisions. On écoutera tout cela vers 19h. Mais c'est vrai que cette mise en scène des annonces à répétition agace certains responsables politiques. Écoutez Marine Le Pen qui était en déplacement aujourd'hui à Fréjus.
Pardon, mais ça devient un sketch. Ça devient un véritable sketch. C'est-à-dire que la loi sur le pass vaccinal n'est même pas en application. Elle est encore devant le Conseil constitutionnel. Que le gouvernement, qui a fait un cinéma absolument incroyable, anxiogène, en expliquant que c'était limite la fin du monde et qu'on devait accepter de limiter l'intégralité de nos libertés, vient nous expliquer qu'il va procéder à la levée d'un certain nombre de contraintes. Tant mieux ! Je ne peux que me réjouir de cette décision.
Voilà pour Marine Le Pen. Alexandre Devecchio, il y a un paradoxe entre cette perspective de lever des mesures de restriction et la mise en place du pass vaccinal qui sera dans les prochains jours.
Je crois que le gouvernement ne veut pas reculer sur le pass vaccinal. Et s'il était cohérent et logique, il le ferait. Mais il en a tellement fait un marqueur politique. On se souvient de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, qu'on le voit mal.
Ça restera cette phrase.
Oui, ça restera. Peut-être d'ailleurs que c'est une stratégie politique. Ça a plu à certains. Mais je crois que ce n'est pas digne d'un président de la République qui doit s'adresser à tous les Français. Et donc, une fois qu'il a fait ça, s'il revenait en arrière, ce serait une défaite politique pour lui. Il perdrait la face. Donc, il ne va pas le faire. Donc, ils vont faire sauter les mesures gadgets autour. On pourra prendre le café désormais debout à nouveau.
Debout.
voilà. Ça sera bien aussi pour le monde du spectacle, de la culture, sans doute à l'école, des protocoles moins délirants. Peut-être le télétravail. On aura une évolution rapide. Mais effectivement, on va rester avec la mesure la plus problématique de toutes, celle du pass vaccinal. Alors, on peut...
En même temps, ça pousse à la troisième dose. Vous le savez très bien aussi, ce pass vaccinal.
On peut dire aussi que le gouvernement a eu peur avec Omicron, que dans le doute, ils ont appliqué le principe de précaution. Voilà, il y a des petites phrases, une infantilisation qui n'était peut-être pas nécessaire. Et s'ils ne l'avaient pas pratiqué, ils pourraient revenir en arrière, dire bah, après tout, le taux d'hospitalisation n'est pas si important que ça. Il n'y a pas de nécessité de mettre en place ce pass vaccinal.
Ça m'étonnerait que le gouvernement le fasse.
Non, ils ne le font pas
évidemment.
Ils n'ont pas amené ce passe avec avec l'humilité nécessaire.
Céline Pina, sur ces calendriers qui nous arrivent.
On peut comprendre qu'il lève quand même quelques restrictions au vu de ce qu'on entend de la part des médecins. Ils ont l'air à peu près tous d'accord. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que malheureusement, on nous a déjà annoncé une ou deux fois que ça y est, c'était la fin. Et on a vu d'autres vagues arriver. Donc, on peut se dire aussi que c'est peut-être une mesure de précaution où ils se disent, on ne maîtrise rien, on pilote à vue. Peut-être qu'une autre vague est encore là. Donc, continuons à insister sur la vaccination. Ce n'est pas complètement absurde.
Christian Proutot, votre avis ?
Oui, je rejoins complètement ce point de vue. C'est trop facile.
Bon, vous êtes tous d'accord.
De ce qui se passe maintenant, de dire oui, mais maintenant, pourquoi ils ont fait ça ? Au moment où les décisions ont été prises, je ne défends personne. Là. J'essaie de me mettre à la place de gens auxquels on pourrait reprocher aussi rapidement qu'on le reproche d'en faire trop, de ne pas en avoir fait assez. Alors, il faut rester modeste dans la mesure et se dire qu'effectivement, quand Omicron est arrivé, personne ne connaissait la gravité potentielle de ce nouveau variant. Et puis, je pense également, comme ça a déjà été dit, Alexandre, je crois, l'a souligné, qu'il y a... On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, donc,
ah oui, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant.
On n'est pas... Vu la vitesse à laquelle ça change, c'est comme l'heure, ça change tout le temps. Donc, là, on est à la merci, malgré tout, d'un virus que personne véritablement maîtrise.
Karim Zerbi, elle a beau jeu, Marine Le Pen, de dire c'est un sketch, c'est une mise... C'est vrai qu'il y a de la mise en scène. C'est oui, indéniable. C'est... On nous annonce à telle heure, on vous dira peut-être quelque chose, et puis ça... C'est vrai qu'il y a de la mise en scène depuis le début.
Il y a toujours eu de la mise en scène en politique. Mm-hmm. Et la mise en scène fait partie donc, de la politique, de la manière dont on se met en situation. Moi, je crois que le Premier ministre, ce soir, va nous dire que le maître mot de la politique sanitaire du gouvernement, c'est l'adaptation. L'adaptation à une situation en temps réel, à l'évolution du virus. Et il va nous dire que nous avons une arme. Qu'il voulait doter notre pays d'une arme, qui est le pass vaccinal. Je ne me fais pas son avocat, mais j'anticipe un petit peu la posture qu'il peut avoir pour venir nous dire qu'il va y avoir un allègement. Mm-hmm. Ce n'est pas la fin de la crise, oui, à l'évidence. Il ne peut pas nous tenir ce discours-là. Hein. En revanche, il va nous dire qu'il y a un allègement parce que nous nous adaptons et que depuis le départ, le maître mot de notre politique, c'est l'adaptation. Et nous considérons aujourd'hui qu'il faut décorréler le nombre de contaminés du nombre de personnes en réa. Et fort de cette décorrélation, nous estimons qu'il faut revenir à un mode de vie, non pas celui de la normale, parce qu'il faut toujours être en vigilance, mais plus acceptable, moins contraignant, parce qu'ils sentent aussi une forme de lassitude dans la population, des vaccinés et des non-vaccinés, peu importe. Là, il n'y a pas de séparation à faire. Une forme de lassitude, une forme de morale en berne, une forme d'inquiétude aussi par rapport au climat anxiogène. Et ça a des effets psychosociaux sur le pays.
Sur les jeunes, sur les
salariés, le résultat des entreprises. Donc, il faut relancer tout ça. Il faut maintenir une forme d'espérance, une forme de perspective de revivre comme nous aimons vivre, nous, Français. Et donc là, il va... À mon avis, fort de votre invité ce matin, Monsieur Davido, le docteur Davido, qui disait dépistage, ça sert à rien. Mais je pense que le protocole scolaire est quelque chose qui ne tient pas. Le télétravail à outrance est quelque chose qu'il faut alléger. Les grands événements avec les jauges, c'est quelque chose auquel il faut revenir. Et moi, je mettrai en perspective, je fais le pari, et ce soir, je ne prends pas trop de risques, je crois, Allez, je vais prendre un événement sportif. Le premier match du tournoi destination France-Italie le 6 février, qui sera, ça nous met à deux semaines, hein, deux bonnes semaines, le point de mire de cette forme de, je dirais, d'acceptation, d'allègement
donc du protocole actuel. Donc avec jauge pleine dans le SAD.
Je pense que dans les grands événements, on va accepter effectivement à revenir à des stades pleins.
Alexandre Devecchio.
Non, je pense quand même, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait dire le gouvernement ne savait pas il y a deux mois, donc ils ont pris des mesures maximalistes par principe de précaution. D'une part, il y a des choses qu'on pouvait quand même anticiper. Certains médecins nous avaient dit, Omicron, c'est quand même très peu virulent, c'est peut-être même une chance d'ailleurs d'avoir une forme d'immunité collective, peut-être qu'ils auraient pu être entendus. Et je pense qu'à la fin de cette crise, il faudra quand même faire le bilan des experts. On sait qui, le Conseil scientifique, quel a été son rôle, quels sont ses liens avec le pouvoir, qui sont les médecins de plateau. C'est vraiment des questions, moi, que je me pose.
Quels sont les liens avec les laboratoires pharmaceutiques?
Quels sont les liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Je pense qu'il faudra quand même faire le bilan de tout ça à la fin de cette crise. Ensuite, moi, je pense aussi que la stratégie du tout vaccinal, je suis vacciné, n'est pas forcément la bonne stratégie. On fait comme s'il n'y avait qu'une seule politique possible. La vaccination n'empêche pas la contamination, la diffusion du virus. Et moi, contrairement au président de la République, je ne veux pas faire des 10% de non-vaccinés. On rappelle qu'on est quand même 90% à être vaccinés. Les boucs émissaires de tout. Et je pense qu'il y avait des problèmes à l'hôpital avant la crise du Covid. Il y en aura après. C'est quasiment une certitude. Et qu'on aurait pu essayer de régler ces problèmes structurels qui ne sont toujours pas réglés. Donc s'acharner sur il faut vacciner, dire les non-vaccinés, comme l'a dit Gabriel Attal, ça fait 2 ans que les non-vaccinés en remplissent des lits d'hôpitaux. C'est pas vrai. Il y a 2 ans, le vaccin n'existait pas. Et d'ailleurs, le président de la République nous disait que c'était une fake news de Donald Trump. Donc, on a le droit aussi de réfléchir à cette stratégie-là, d'autant plus que dans certains pays, on commence à en revenir, à expliquer que finalement, de faire une quatrième dose, etc., ça accélère la diffusion et peut-être cibler, enfin, les personnes fragiles, plus âgées, avec des comorbidités. Voilà, c'est pas interdit de changer de vision et arrêtons de penser que le pass vaccinal est l'alpha et l'oméga de la politique qui permettra de tout résoudre.
Il faut quand même revenir sur Omicron et rappeler qu'au départ, quand on nous annonce que ce virus-là est hautement contaminant, on sait aussi que la contamination fait partie de la dangerosité et qu'il lui suffit que Omicron soit un peu plus dangereux pour que, là, on voit, est à 500 000, hier on était à 500 000 contaminations. On voit ce que ça aurait pu être. Donc, qu'il y ait eu une gestion par prudence, ça explique complètement. Aujourd'hui, qu'on puisse lever le pied, en revanche, c'est vrai que ça s'impose. Et ensuite, sur la question des experts, les experts ont aussi fait face à des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait des choses extrêmement définitives. Elles sont venues il y a une dizaine de jours, et forcément, entre le temps de l'action politique et le temps des connaissances, parfois, il y a un décalage.
Il y avait une forme d'arrogance et de ceux qui ont parlé en disant « Nous, on sait, voilà, et vous,
après,
vous ne savez pas ».
Après, j'allais dire, malheureusement, malheureusement, sur l'arrogance du pouvoir, elle est générale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas que dans le traitement des soucis qu'on a aujourd'hui. Les gens qui ne sont rien, c'est une phrase aussi qui a beaucoup marqué, qui renvoie au fait de dénier la citoyenneté aux gens qui sont non vaccinés. C'est quand même un mode de communication de ce gouvernement. Et là-dessus, ça fait un moment que tout le monde dit qu'il faut que ça change. Mais apparemment, c'est dur.
Un dernier mot, Karim, avant la pause.
C'est plus sur la forme qu'à un moment donné, nous avons débattu, reconnaissons-le. Sur le fond, le fait que le gouvernement, ne sachant pas où nous allons, a pris des mesures qui étaient certes peut-être d'une ultime prudence, mais on le lui aurait reproché s'il ne l'avait pas fait. On aurait dit au gouvernement, qu'avez-vous fait ? Donc du coup, ce n'est pas le pass vaccinal en tant que tel qui représente une problématique. C'est je vais les emmerder jusqu'au bout. Et mettez protéger à la place d'emmerder. Je vais les protéger jusqu'au bout. Mais ça change totalement la donne. Totalement la donne. Or, effectivement, nous avons focalisé sur cette sémantique, mais le vrai sujet, c'est aujourd'hui, le gouvernement s'adapte à une situation. Et il le fait, à mon avis, sans se contredire sur la politique menée il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, nous ne savions pas où nous en serions aujourd'hui. En fait, on gère ce virus 2 ans après, à la semaine. C'est ça la réalité.
C'est la réalité. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera des professions qui subissent un stress intense en cette période. Je pense notamment aux policiers. Déjà, plusieurs suicides de policiers depuis le début de l'année. On évoque leur situation dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, Alexandre Devecchio du Figaro et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On va parler de la santé mentale des policiers et notamment du suicide des policiers, Christian Proutot, parce qu'il y a déjà eu 7 suicides de policiers depuis le début de l'année, depuis le début 2022. Et 2 policiers de 36 et 43 ans, tous 2 pères de famille, ont mis fin à leur jour mardi à la fois à Lille et à Strasbourg. Aujourd'hui, il y a une réunion avec le directeur général de la police nationale qui reçoit les syndicats, qui va essayer de comprendre le malaise policier qui se traduit de cette façon absolument terrible. Comment est-ce que cette fonction de policier pèse, policier ou gendarme hein, évidemment, parce que c'est le même stress, pèse sur les êtres humains et est-ce que la hiérarchie fait quelque chose? Est-ce que la police, la gendarmerie ont des systèmes de prise en charge de ces stress-là?
Alors, je pense que c'est tout à fait le point central du problème. C'est la manière dont le commandement est exercé. Il y a deux manières de l'exercer. C'est la politique du chiffre, il faut que ça sorte, et donc une espèce de pression. Et malheureusement, ça arrive parce que ça vient toujours d'en haut. Hein. On est dans un contexte où il y a besoin d'avoir des résultats par rapport à ce qui se passe un peu partout, en particulier sur la petite criminalité qui pourrit la vie à tout le monde. Donc on pousse le personnel. Et ensuite, la manière dont les gens réagissent, elle est double. Elle est d'abord, c'est le problème du suicide d'une manière générale, qui pour l'avoir malheureusement bien connu à travers le travail qui a été le mien au GIGN, où il y a beaucoup de suicidaires en face de nous, le suicide est un vrai problème dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, parce que c'est malgré tout une énigme. Le passage à l'acte n'est pas du tout connu, on ne sait pas ce qui déclenche, l'élément déclencheur, il est souvent ou de travail ou familial. Quand c'est, on parle de, pas dans d'autres situations qui sont l'engagement politique ou d'autres choses comme celle-là. Donc ce problème du suicide est mal maîtrisé. Mais si en plus, vous n'avez pas dans le commandement, vous n'avez pas une écoute de vos personnels, eh bien, où les personnels ne savent pas à qui se confier, vous augmentez notablement du fait de la pression, j'allais dire du travail au quotidien,
la difficulté.
Qui, pour des métiers comme la police ou la gendarmerie, est un travail vraiment où vous côtoyez souvent le pire. Hein,
parce que, c'est ça, le pire de l'humanité.
De l'humanité, dans certaines circonstances, et ça vous impacte. C'est la double peine. Vous avez vos problèmes, ou même la triple, si vous n'avez pas d'écoute, et si le métier que vous faites, au contact de ce métier, fait que le poids, tout d'un coup, devient insupportable. Voilà.
C'est ça. Et il y a la même situation dans la gendarmerie que dans la police nationale.
Alors, il y a le même problème de suicide, mais qui, je crois que les chiffres sont là, est légèrement inférieur. Voilà. Je dis légèrement parce qu'il y a des années avec, si j'ose dire, et des années sans. Mais il est inférieur. Et je crois, pour l'avoir dit à plusieurs reprises, sur d'autres phénomènes dont on a parlé ici, rappelez-vous, quand on a regretté certaines actions de police, avec tous les clacs que ça avait pu faire au niveau de la presse, on avait regretté, et d'ailleurs la police elle-même avait fait son autocritique, que le personnel soit livré à lui-même et que derrière la hiérarchie, on n'en entende pas parler. Donc les gens avaient fait des bêtises, ils se retrouvaient au premier rang, mais derrière, on ne savait pas qui avait déclenché quoi. Donc il y a un véritable problème,
je pense. C'est-à-dire le bashing qu'il y a eu sur la police,
voilà, hein,
soyons très clairs.
Tout à fait.
Sur les policiers, leur travail, la façon dont ils l'exercent.
Alors je sais que la police est en train de se pencher sur ce problème de hiérarchie verticale, mais c'est toute une éducation qui est à reprendre en amont, parce que pendant des années, la hiérarchie elle a plutôt été horizontale que verticale dans la police nationale.
Céline Pina, à quand on peut dater, remonter ce vrai malaise policier? C'est récent ou ça a plusieurs années?
Alors, j'avoue que j'aurais du mal. Je pense malgré tout que les gilets jaunes, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes n'a rien arrangé. D'abord parce qu'en général, quelqu'un qui rentre dans la police, il le fait parce qu'il a envie de sauver les gens. Il y a beaucoup ce discours autour du fait de protéger et de sauver, et que quand vous retrouvez finalement à aller taper sur des gens qui vous ressemblent, dont les problématiques vous parlent, dont les revendications résonnent peut-être avec les vôtres, vous vous sentez en porte-à-faux. Et qu'en plus, la manière dont vous intervenez n'est pas comprise et déclenche énormément d'agressivité de la part des personnes en face auxquelles vous pouvez vous identifier, je pense qu'il y a un effet qui est très très douloureux. Donc il y a ça. Et puis on a eu, je crois que c'est la Mutuelle des Forces de Police qui a fait une étude en juillet, qui est sortie en juillet, auprès de 6000 policiers. Et 24% disaient soit avoir eu des idées de suicide, soit avoir très près d'eux quelqu'un qui en avait dans leur environnement.
Énorme.
Et 40% expliquaient qu'ils avaient des soucis d'ordre psychologique, ce qui est extrêmement important, surtout sur un panel aussi important. Donc ça parle aussi d'un malaise très très fort. Et enfin, il y a beaucoup de policiers qui vous disent que quand ils se battent parfois, notamment pour des histoires de femmes battues ou d'enfants maltraités, le fait parfois que la justice soit très lente fait qu'ils se demandent quelle est leur réelle utilité. Et donc finalement, parfois, c'est leur action sur le terrain, ils la voient. Le fait que souvent, elles n'aboutissent pas, ça les détruit aussi psychologiquement parfois.
Karim Zerebi, il y a des lignes d'écoute, deux lignes d'écoute hein, téléphoniques qui ont été mises en place par le ministère de l'Intérieur. Visiblement, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin.
Non, pour, ce sont des démarches assez récentes.
Aider ces hommes et femmes.
Oui, ce sont des démarches assez récentes qui sont nécessaires hein, parce que l'écoute, on sait combien elle est importante donc pour des personnes qui sont dans de telles situations. Mais Christian Proutot disait tout à l'heure que la question du suicide était un sujet de dimension nationale qui touchait énormément de strates de la société française, de catégories de la société française. Et à cela, si on rajoute du côté des fonctionnaires de police deux dimensions qui me paraissent quand même importantes, un, ils sont armés.
Oui.
Donc le passage à l'acte est plus facile. Deux, on commente souvent dans Punchline, malheureusement, ces derniers mois, ces dernières années, le délitement de la société. Qui est le rempart à ce délitement ? Au quotidien, tous les jours. Qui prend de plein fouet dans l'exercice d'un métier difficile, pas toujours bien payé, et même souvent mal payé, gardien de la paix, jeune officier, ce sont les fonctionnaires de police. Donc si vous maintenez dans l'analyse le fait que, comme la société française et comme dans la société française, les policiers sont des citoyens qui ont des problèmes personnels, familiaux. De surcroît, vous rajoutez à ça l'exercice d'un métier difficile face à des problématiques où eux-mêmes sentent au plus profond d'eux-mêmes parfois un désarroi. Ils font un travail difficile et pas toujours suivi des faits par la justice, souvent dénigré par les médias, l'opinion qui les critique et qui les assène de tous les maux. Je veux dire, alors qu'ils se disent mais on ne mérite pas ça. Et ils ont effectivement cet outil fatidique qui est l'arme pour passer à l'acte que n'ont pas d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une attention particulière au sein de la maison de police. Vous avez parlé de ces deux lignes. Il y a une hiérarchie aussi à qui on a dit s'il y a des signaux, faites attention. Il faut parfois faire décompresser un peu les garçons. Ils ont des rythmes un peu fous, des amplitudes. Tout ça fait que cette attention, elle est plus grande aujourd'hui, mais le nombre de suicides, malheureusement, il ne décroît pas. Quand on regarde ces dernières années. Il est très important, cette corporation.
C'est un symptôme d'une société qui va mal, Alexandre Devecchio.
Oui, d'une société dépressive, d'une certaine manière. Je pense que la police est dépressive, et souvent la dépression vient de l'absence de sens. Et je pense que les policiers ont l'impression, certains policiers du moins, ont l'impression que leur métier n'a plus de sens. Céline Pina parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Je me mets à la place d'un policier. Effectivement, sociologiquement, il ressemblait beaucoup aux gens à qui ils ont parfois donné la matraque parce que c'était les ordres. Donc je ne suis pas sûr qu'ils l'ont fait en fait de gaieté de cœur et devaient se demander pourquoi ils étaient là plutôt qu'à traquer les délinquants. Aujourd'hui, ça continue avec les histoires de passe vaccinale sanitaire. Oui. C'est une situation beaucoup moins dramatique, étendue, mais je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui aimeraient mieux être sur le terrain, dans certaines cités difficiles, à résoudre réellement les problèmes. Or, sur cette délinquance-là, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution depuis une quarantaine d'années. Même là, ça s'est dégradé, puisque autrefois, malgré tout, la police était respectée, le délinquant avait peur du policier. Aujourd'hui, c'est parfois les policiers, alors je ne sais pas s'ils ils ont peur, mais en tout cas, ils sont menacés physiquement par les délinquants. Donc là encore, il y a un chantier politique immense pour résoudre ce problème de l'insécurité en France et pour faire que le métier de policier retrouve un sens. Ça passera aussi par la justice, parce que je pense que ce qui
évidemment
est la lassitude, c'est aussi d'arrêter des gens qui vont se retrouver en liberté le lendemain et qui vont les larguer.
Christian Proutot, il y a aussi le fait qu'à un moment, policiers et gendarmes ont eu le sentiment d'être désaimés de la population. On a entendu des choses très dures, il y a eu des mots prononcés par les plus hauts dirigeants de ce pays qui les ont heurtés profondément.
Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a cette ambiance qui peut faire tout d'un coup que ce passage à l'acte qui pose problème, parce que c'est une, pour moi, c'est une énigme, le passage à l'acte du suicide. Je ne suis pas le seul, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir appris plus que les autres, mais je l'ai tellement croisé que je voudrais qu'on pose le problème autrement aussi. C'est très bien qu'à travers la police, on alerte une situation qui peut conduire effectivement au suicide. Il y a aussi dans ces suicides des suicides dus à des problèmes familiaux, comme un peu partout.
Multifactoriel.
Voilà, c'est multifactoriel. Mais la psychiatrie en France, c'est un vrai problème. Oui. On l'a vu, on l'a évoqué à plusieurs reprises sur le comportement même de la criminalité ou la petite criminalité. Il y a beaucoup de suicidaires. Il y a toute une situation sociale, Alexandre l'évoquait très bien, qui fait que notre société ne va pas bien. Et à partir du moment où elle ne va pas bien et qu'il n'y a pas ou peu de soutien, le passage à l'acte est plus facile. Donc, il faut profiter, si j'ose dire, il faut s'interpeller tous sur ce problème qui nous marque, parce que ce sont nos policiers, nos gendarmes, nos forces, mais il y a aussi, chez les instituteurs, regardez, chez les paysans, le nombre d'agriculteurs qui ont des chiffres, eux aussi, importants. Donc c'est un problème sociétal qui doit être pris à bras-le-corps. Et en matière d'écoute, regardez, même pendant le confinement, on a parlé d'étudiants qui le vivent pas très bien.
Mal, oui,
donc on a une société et qu'il faudra finir par écouter autrement simplement qu'en se disant c'est un problème qui est comme ça et puis voilà.
Céline Pina.
Ils sont peut-être aussi dans un paradoxe impossible, c'est-à-dire que le rôle de la police c'est d'assurer ce qu'on appelle la violence légitime. Elle est légitime parce qu'on délègue l'usage de cette violence au nom de l'État, justement pour maintenir l'ordre public. Et dans le même temps, on leur fait justement le procès d'agir de façon trop violente, or arrêter quelqu'un, mettre fin parfois à une bagarre, aller au contact de délinquants, ça suscite des situations de violence et c'est très difficile de les calmer simplement en demandant aux gens d'être gentils. Et il y a eu aussi toute une exploitation autour de ça qui fait que les policiers se voient, y compris dans des gestes qui sont des gestes normaux, parce qu'il faut bien contenir une personne, se voit mis en accusation. Donc il y a cette violence-là qui est immense et qui est impossible à résoudre et qui est accentuée par le fait que souvent les politiques sont très hypocrites et demandent à la fois d'y aller au bâton et face aux conséquences filmées vont dire « Ah non, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait ». Sauf qu'en fait, si on veut arrêter quelqu'un, ça va forcément à un moment se passer comme ça. Je ne parle pas de violence illégitime. Ensuite, il y a une autre dimension qu'on oublie, c'est le fait que la police est devenue une cible et une cible politique. Elle est ciblée dans le cadre des attentats, autrement dit, l'islamisme qui est un projet de conquête et de violence, je ne dis pas que c'est parce que c'est un projet de conquête qu'ils vont y arriver, mais il y a ça dedans, cible de façon explicite les agents de l'État, dont les policiers au premier rang, et les policiers ont été victimes de cela. Et enfin, il y a toute la notion, vous vous souvenez de l'acronyme ACAB, qui signifie All Cops Are Bastards, donc tous les flics sont des salauds, qui a été massivement utilisé, notamment dans le cadre de Black Lives Matter, et que l'on a importé en France en faisant comme si la police française avait les mêmes soucis que la police américaine et comme si la société française ressemblait à la société américaine.
Avec du racisme endémique.
Voilà, alors qu'on a une police qui, pour le coup, est vraiment extrêmement surveillée, dans laquelle il y a beaucoup de sanctions, ce qui est exactement l'inverse, d'ailleurs, du corps de la magistrature, dans lequel on a le sentiment, peut-être à tort, que les juges, eux, sont rarement sanctionnés, quelles que soient leurs décisions. En revanche, les policiers, on en voit régulièrement tomber ou en tout cas être poursuivis. Il y a une forte surveillance autour de ça. Donc je pense que le cumul de toutes ces tensions et de toutes ces pressions est très, très difficile à gérer. Or, si en plus, vous avez des difficultés de vie parce que vous êtes sous-payé et que vous êtes, quand vous êtes à Paris, par exemple, la vie à Paris est très, très difficile. Je comprends qu'à la fin, les gens finissent par craquer.
Carrément, dernier mot.
Et puis, il y a un phénomène peut-être sur lequel il faut qu'on s'interroge, c'est sur ce qui faisait aussi la force de ces métiers, c'est l'esprit de corps. Je trouve que l'esprit de corps, c'est quand même délité, là aussi, en interne, de ces dernières années. En travaillant sur des services qui sont très cloisonnés les uns avec les autres, quand on avait des difficultés par le passé, on allait chercher ce besoin de solidarité, ce besoin de réconfort dans l'esprit de corps. Et peut-être que si chez les gendarmes, on a moins de suicides que chez les policiers, parce que cet esprit de corps, il a perduré chez les gendarmes. je parle sous le contrôle de Christian, mais peut-être dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de vie, dans leur formation et autres. Et à part chez les compagnies républicaines de sécurité, vous prenez les autres services de la police nationale, ils sont très cloisonnés. Ils sont même en concurrence les uns avec les autres, parfois. Une forme de compétition qui peut générer une forme de mal-être. Parce qu'on le voit, hein, moi je connais un peu la maison en interne, il y a même des accusations qui sont portées, des services par rapport aux autres, vous avez mal fait, vous auriez dû faire. Et je pense que ça rajoute une forme de malaise au malaise qui existe déjà et au mal-être individuel, comme on le disait tout à l'heure, et qui peut exister par rapport à des problématiques de vie personnelle. Donc il faut retrouver aussi cet esprit de corps dans cette grande maison. Cet esprit de corps, il a eu existé. Il faisait aussi la force de la corporation policière. C'est pour ça qu'elle s'appelle la grande maison, hein, tu te souviens. Donc, et je pense que le management, le commandement a intérêt à ce qu'on retrouve ça.
D'accord. Alexandre Novecchio, c'est aussi un des enjeux de la présidentielle. La sécurité,
se tient, même si je pense que les problématiques dans la police sont quand même différentes de celles à l'hôpital. Mais quand j'écoutais Karim Zeribi, je me disais que c'était pas si loin finalement de ce qui se passait à l'hôpital, avec peut-être une hiérarchie qui n'est pas à la hauteur, qui est déconnectée du terrain. Il y a aussi un problème de suradministration peut-être dans la police. Alors pas de la même façon qu'à l'hôpital, mais on demande là pour le coup aux policiers de faire des tâches administratives qui ne sont pas les leurs. Donc oui, ce sera un enjeu, encore une fois, qu'on ne peut pas décorréler de la justice. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Céline Pina, parce que ça c'était intéressant. On a eu quand même ce débat, effectivement, autour de Black Lives Matter au milieu du quinquennat, où à un moment donné, on avait l'impression qu'on était dans un état policier raciste. Alors c'est un débat qui a été poussé par une partie de l'extrême gauche, enfin de la gauche radicale, du camp mélenchoniste, mais pas seulement. En réalité, il y a beaucoup de médias qui ont été incroyablement complaisants avec ça. Assa Traoré qui fait la une du Nouvel Observateur, du Monde, etc. Je pense que ça a pesé. Et la majorité qui aujourd'hui découvre le problème sécuritaire, mais on se souvient de Castaner qui voulait se mettre à genoux avec les indigènes de la République pour l'affaire Black Lives Matter, ou pour l'affaire Traoré d'ailleurs, alors qu'il n'y avait aucune preuve.
L'affaire George Floyd.
Mais les deux étaient liés, parce qu'à ce moment-là, l'affaire Traoré était instrumentalisée. Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir avec l'affaire Floyd, mais on a voulu faire croire que c'était la même chose. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque a cédé à des minorités agissantes qui font de la politique de manière radicale et qui sont déconnectées de la réalité, qui en plus ne pèsent rien politiquement. Donc je pense que tout ça a laissé des séquelles.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline. On parlera des chiffres de l'immigration. Le ministère de l'Intérieur vient de les publier. Ils sont en hausse pour les demandes d'asile. Et puis, on reviendra sur ce drame épouvantable dans le Jura à Champagnole, où 4 jeunes ont trouvé la mort dans un accident de voiture. On sera sur place. À tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline avec nos invités sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de ce choc au lycée Paul-Émile Victor de Champagnole dans le Jura, où 4 jeunes ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Ils sont restés prisonniers de leur véhicule qui a plongé dans un lac, visiblement après un dérapage sur une route verglacée. On va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux, Jeanne Cancard et Fabrice Esner. Bonsoir à tous les deux. C'est la sidération et la douleur, bien sûr, parmi les camarades de ces jeunes victimes, Jeanne.
Eh bien Laurence, les rires qui éclatent d'ordinaire à l'entrée de ce lycée, comme nous l'ont expliqué des élèves, laissent place désormais à des visages fermés, des jeunes meurtris par la disparition tragique de 4 de leurs camarades. Parmi ces victimes, 3 d'entre elles étaient pensionnaires ici dans cet internat, tout comme le jeune garçon de 17 ans qui a survécu à ce drame. Ici, cet internat, c'est un peu comme une grande famille, nous expliquait tout à l'heure l'un des élèves avec qui nous avons pu discuter. Ici, donc, tout le monde se connaît de près ou de loin dans cet internat, de cette petite ville du Jura, aujourd'hui totalement meurtrie et sous le choc. Écoutez.
J'étais choqué, je ne m'attendais pas du tout à voir ça.
Et là, c'était comment ce matin ?
C'était triste. Tout le monde, il n'y avait personne qui rigolait, personne. Tout le monde ne parlait pas en fait, personne ne parlait. Tout le monde se côtoie, tout le monde. Ouais, on est tous frères à l'internat en fait, mais. Voilà.
C'est dramatique. Je suis venue apporter des fleurs. J'espère vraiment que les gens vont avoir un élan de compassion. Je me disais même que peut-être on pourrait tous allumer une bougie ce soir à 20h sur nos fenêtres. En hommage à ces jeunes. Voilà. Merci.
Les jeunes victimes étaient donc pensionnaires ici pour la plupart et elles avaient régulièrement l'habitude d'avoir des autorisations de sortie pour le mercredi après-midi et justement aller se balader autour de ce lac là où l'accident a eu lieu. Eh bien, c'est une promenade ici qui est assez fréquente, c'est ce que nous expliquent les élèves de ce lycée. C'est donc d'autant plus un choc pour eux qu'ils peuvent facilement s'identifier à ce drame. Parmi ces internes de ce pensionnat, eh bien, certains ont décidé de rentrer chez eux. Depuis ce matin, on voit des parents qui viennent récupérer leurs enfants. D'autres, en revanche, restent ici dans cet établissement pour tenter de surmonter ce drame. Ici, où une cellule psychologique a été mise en place, des équipes de professionnels qui vont rester mobilisées jusqu'à la semaine prochaine.
Merci beaucoup pour ces explications, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, sur place dans le Jura. Christian Proutot, spécialiste, évidemment, c'est un accident abominable.
Oui,
quatre vies qui sont touchées.
Le tribut payé par la route était déjà lourd. Les jeunes, malheureusement, et pas dans ces conditions, mais qui sont des conditions de conduite, j'allais dire, presque banal, en dehors du fait qu'il y avait une aérologie avec du verglas possible dans ce virage ou dans cette petite route en descente, fait que on peut même pas se poser la question de dire est-ce qu'il y a eu un excès de vitesse, est-ce qu'il y a eu... Non, c'est tout d'un coup, et on le voit également à travers les images, il y avait au moins un arbre qui aurait pu arrêter cette voiture. Un peu comme s'il y avait une espèce de fatalité, il fallait absolument que cette voiture aille dans l'eau. Ce prix des jeunes qui, normalement, est une espèce d'éducation qu'on essaie de donner pour qu'ils roulent moins vite, qu'ils sortent moins vite le soir et tout. Là, simplement pour aller faire un petit tour à ce lac de Chalin que je connais, qui est un endroit où les jeunes passent du bon temps. C'est vrai que c'est terrible et douloureux, on ne peut que penser à leur famille.
Karim Zerebi.
Un accident, déjà, en tant que tel, c'est dramatique. Donc, 5 lycéens accidentés, dont un qui a pu s'extraire, 4 morts. Celui qui s'est extrait, imaginez le choc psychologique, donc il est très entouré, très encadré, et les gamins du lycée le sont tout autant. Il y a à peu près 10 professionnels qui sont dans une posture d'écoute, parce que il y a je parlais d'esprit de corps tout à l'heure, il y a un esprit de corps dans un internat entre lycéens, donc c'est vraiment quelque chose qui a dû bouleverser à la fois les gamins et leur famille. Donc oui, on se dit que des lycéens qui perdent la vie dans ces circonstances, c'est dramatique. Moi, j'ai une pensée pour les familles, donc condoléances à elles, grand courage dans ces moments-là dramatiques. Vous pensez que votre gamin va rejoindre l'internat, il fait pas le fou, donc il a rien fait d'anormal, donc sortie de route, et accident mortel, c'est un drame, mais vraiment, on pense aux familles, on est en solidarité avec.
Et Christian Proutot, les gendarmes qui sont arrivés très vite sur place n'ont pas hésité à se mettre à l'eau tout de suite pour tenter d'aller récupérer les jeunes dans la voiture.
Oui, c'est là qu'on voit que ces métiers, on parlait tout à l'heure du choc que ça peut représenter. Imaginez pour ces gendarmes qui sont, comme vous le soulignez, arrivés vite. On a toujours l'espoir fou que peut-être on arrivera à sauver quelqu'un. Mais on sait très bien que vu la température de l'eau, vu les conditions, mais ils n'ont pas hésité à se mettre à l'eau pour essayer de les sauver. Et ils n'ont pu que constater ce qu'il y a le pire, de voir des enfants qui auraient pu être les leurs au fond de ce lac.
Voilà, on pense à eux et à leur famille, évidemment, après ce drame. On va évoquer maintenant les chiffres de l'immigration qui ont été rendus publics par le ministère de l'Intérieur. En 2021, le nombre de demandes d'asile est reparti à la hausse, plus 28,3%. C'est un chiffre qui reste néanmoins en dessous de ce qu'il y avait avant la crise sanitaire. On va écouter Gérald Darmanin qui, lui, revenait sur la notion de migrants, comment les arrêter, et une réponse évidemment à la polémique autour de la construction de murs et de barbelés pour stopper les flux migratoires. Écoutez sa réponse.
Il faut bien tenir les frontières extérieures. Évidemment, il ne faut pas créer des murailles, des barbelés. Il faut savoir enregistrer les personnes qui arrivent sur le sol européen, voir pourquoi elles sont là. Est-ce qu'on peut regarder si elles ont ou pas des problèmes de sécurité avec l'Europe? Et puis enfin, est-ce que les demandes d'asile ne peuvent pas se traiter plus rapidement? Ceux qui méritent l'asile en Europe doivent être accueillis. Et ceux qui ne méritent pas l'asile en Europe, on doit leur dire de ne pas pouvoir rentrer.
Là, pour le coup, Alexandre Devecchio, on est au cœur de la campagne électorale qui arrive, avec des propositions dans tous les sens, à droite, évidemment, avec Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Gérald
Darmanin était aux manettes. C'est parfois problématique avec En Marche, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas au gouvernement. Que ne l'ont-ils pas fait depuis 5 ans? problème migratoire, il existe depuis 30 ans en France. Il s'est accentué autour des années 2015 avec la première crise migratoire, la décision d'Angela Merkel d'accueillir des millions de migrants. Donc, ce n'est pas un problème qu'on découvre aujourd'hui. Donc, là, pour le coup, le gouvernement, c'est un de ses gros points faibles, je pense, pendant la campagne présidentielle, c'est sa crédibilité sur ces questions régaliennes. Alors, les autres ont aussi des points faibles. La droite a été au pouvoir, elle n'a pas forcément fait mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est eux qui sont aux manettes. Venir maintenant avec des propositions à 3 mois de la présidentielle, c'est un peu tard.
Céline Pina, sur ce dossier de l'immigration.
Mais c'est surtout la proposition, on va mieux les enregistrer. Oui, c'est-à-dire que là, on a envie de dire, il y a malgré tout un véritable souci. On voit bien, et ce n'est d'ailleurs pas que la France, c'est dans d'autres pays européens, on voit bien que la question de l'immigration, notamment clandestine, pose des soucis, que la question des migrants déclenche aussi à la fois beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes. Et si la réponse est « on va mieux les enregistrer », on a quand même l'impression qu'on se moque un peu de nous. D'autant que la mise en cause de Schengen, le refus d'assurer la sécurité des frontières, la question aussi de l'absence de barrières intérieures qui font qu'une fois qu'on est rentré, ça devient très très facile de se déplacer. Le fait aussi qu'il y ait des multitudes de recours, c'est-à-dire y compris lorsqu'on vous dit « vous n'avez pas le droit de rentrer », il y a déjà plein de recours qui vous permettent de rester, voire des faits qui vous rendent inexpulsable sans pour autant vous donner une capacité à être intégré ou à trouver du travail. Toute l'absurdité du système est connue et quand la simple réponse est de dire on va mieux enregistrer les gens, bon, on n'est pas crédible du tout. Il va quand même falloir là-dessus que le gouvernement muscle un peu ses réponses.
Et j'imagine que ça sera parmi les propositions d'Emmanuel Macron. Christian Proutot, sur ce sujet, les murailles, les murs, les barbelés.
Alors ça, je ne peux pas supporter ça. J'étais tellement heureux quand le mur de Berlin est tombé, vous voyez, que tout d'un coup, venir nous dire qu'on va reconstruire des murs qui sont complètement illusoires. Je voudrais rappeler une chose.
Il y a 12 pays qui en construisent actuellement dans l'Union européenne. Pays qui se, qui font non, mais c'est une réalité.
Ils font faire la même chose.
C'est une réalité.
Et on n'est pas sûr que ça résolve le problème. La muraille de Chine a existé pendant des années. Elle n'a jamais évité les invasions des Mongols. Non, ce que je voudrais dire, et c'est important, c'est que déjà, quand il y avait des frontières avec la police de l'air et des frontières, on était une passoire. Personne ne veut l'admettre, mais c'est une réalité. Les gens, quand ils veulent passer, ils passent. Si on ne veut pas prendre en compte le problème géopolitique, dire que le bazar qu'on a fichu au Moyen-Orient, on le paye avec des grands courants d'immigration, parce que derrière, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, les gens se tirent dessus. Ils essayent de mieux vivre, d'essayer de vivre ailleurs. Bien sûr, c'est pas à nous de les accueillir complètement. Bien sûr, l'Europe, avec Schengen, qui depuis le début aurait dû créer, au moment où on crée Schengen, on aurait dû créer un espace de frontières européen, avec les moyens pour le protéger. On réalise ça il y a 10 ans. On l'a pas fait. Mais il n'empêche que maintenant, le problème, il faut le prendre sous tous les angles. Mais laissez croire qu'il suffit de mettre des murs pour empêcher les gens qui de toute façon payent des fortunes avec le peu d'argent qu'ils ont pour venir chez nous parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado, c'est pas bien.
Alexandre, et puis après Karine.
Je suis désolé, Christian Proutot, je suis en désaccord avec vous là-dessus. Je ne sais pas si le mur résoudra tout, mais enfin, les pays qui le font arrivent à quand même limiter l'immigration. Ensuite, c'est votre comparaison avec le mur de Berlin que je ne trouve pas juste. Comme ça, en vous entendant,
on a envie d'être d'accord avec vous.
Non, mais justement, j'ai compris la symbolique du mur, sauf que le mur de Berlin, c'était un mur pour empêcher les gens de partir de chez eux, pas pour empêcher d'autres d'entrer, si vous voulez.
Avec des mitrailleuses en haut. Ça finit toujours comme ça.
C'est digne d'Éric Zemmour qui compare l'UE à l'URSS.
Merci pour la comparaison. Simplement, je voudrais rappeler que l'Hexagone, puisque c'est comme ça qu'il est coutume de l'appeler, avait, à l'époque où il y avait ces frontières sur lesquelles tout le monde dit c'était mieux avant, il faut revenir, avait, parce que je les ai identifiés, c'était ma mission à ce moment-là par rapport au terrorisme, il y avait 570 points d'entrée faciles en France. Chercher l'erreur. Alors. Et je ne parle pas de la mer.
Je regrette la manière dont on traite ce sujet qui est important. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle sans tabou, sans a priori, sans hystérie. Et il faut que nous posions ce sujet sur la table. Mais je trouve que, quel que soit le bord politique, on en parle avec une forme d'idéologie, une forme de rhétorique qui est très théorique, en fait. Moi, j'aimerais qu'on fasse preuve de plus de pragmatisme. plus de pragmatisme, c'est quoi ? OK, pour parler des flux migratoires à venir. Très bien. Tout le monde nous donne sa solution. L'un veut faire les murs, l'autre nous parle de Frontex. Etc. Mais on a quand même une réalité qu'il faut gérer chez nous, ici et maintenant. Mieux intégrer, mieux expulser. C'est une vraie réalité. Mieux intégrer ceux qui ont un droit au séjour et qui doivent s'intégrer dans la société française avec nos codes, notre régime politique, nos principes, nos valeurs, notre culture, et expulser ceux qui n'ont pas le droit d'être chez nous. Ils n'apportent aucune réponse à ces deux questions. Et ils nous parlent que des flux à venir. Mais non.
Ils inventent, ils disent qu'eux, ils y arriveront. Que alors, évidemment, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché.
L'opposition nous dit qu'ils y arriveront. Mais ils ne disent pas comment. Hier, nous avons eu j'ai eu des difficultés. J'ai posé la question à Éric Ciotti qui était avec nous hier dans Budget. Ça brasse. C'est pas très concret. Gérald Darmanin nous parle des flux à venir. D'accord. Mais il est dans l'exercice. Sur ce qu'il y a à gérer. Comment fait-il pour expulser ceux qui ne sont pas en situation régulière dans notre pays? On n'a pas de réponse. Mais quand même, moi je veux bien encore une fois qu'on nous fasse de la prospective. Oui, les flux migratoires, il faut faire attention. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en situation irrégulière dans notre pays, qui sont en errance, qui n'ont pas de situation et qui n'en auront pas, parce qu'ils n'auront pas de séjour. Comment fait-on pour les renvoyer dans leur pays d'origine? Comment
fait-on sans l'accord des pays. Hein.
Comment fait-on pour...
Parce que c'est le cœur du sujet.
Justement, mais donc c'est ce à quoi il faut parvenir. Comment fait-on pour mieux intégrer, comme le fait l'Allemagne? Je parlais hier, alors c'est...
Les heures de formation à la langue, bien sûr.
Oui, mais c'est pas rébarbatif. C'est important de maîtriser la langue du pays dans lequel vous installez. 600 heures obligatoires en Allemagne, décrétées par des institutions étatiques, 200 heures non obligatoires chez nous, décrétées par des associations. On se donne les moyens ou pas de faire de l'intégration? Et troisième et dernier sujet, j'en termine, c'est la coopération avec les pays d'origine pour éviter que de flux à venir arrivent. Ça veut dire prendre en compte le développement du pays, les politiques de co-développement. Et il faut qu'on le fasse. C'est pas de la charité. C'est dans notre intérêt.
Allez, un dernier mot, Céline Pina, c'est la fin.
Malheureusement, quand Emmanuel Macron en a parlé, ça a fait pchit. C'est-à-dire que oui, mais à ce moment-là, il faut être ferme et dire au pays, et notamment de façon curieuse, c'est pas tant le Moyen-Orient, on a peut-être fait beaucoup de bêtises, mais les trois quarts des gens qui sont sur notre territoire, et y compris quand les Syriens arrivaient, il y avait aussi des arrivées massives de Marocains, d'Algériens, donc de gens qui n'étaient pas censés venir de pays en guerre et qui arrivent souvent dans les CADA. Il y a pas mal de gens de l'Afrique noire, il y a pas mal de gens de ces pays-là, alors qu'il n'y a pas de soucis très très lourds. Et quand on ne peut pas les renvoyer, effectivement, mais l'aide au développement, on peut aussi la couper et être très strict. Sauf que nous, on brasse beaucoup d'air, mais quand il s'agit d'appliquer et de vraiment rentrer dans le rapport de force, on n'y va pas. Donc aujourd'hui, on n'est même pas crédible, y compris pour renvoyer un certain nombre de personnes.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant sur CNews, vous avez rendez-vous avec Christine Kelly pour Face à l'info avec ses invités. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la radio sur Europe 1 dans un instant pour les débats de Punchline. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. On va vivre en direct dans quelques instants la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, accompagné d'Olivier Véran. Les deux doivent évidemment parler des restrictions sanitaires, la levée des restrictions sanitaires. Un calendrier doit nous être proposé dans les toutes prochaines minutes. On va voir avec vous, Céline Giraud, bonsoir. Chef du service société d'Europe 1, qu'on a déjà des pistes sur ce qui va être annoncé. Nous sommes avec Louis de Ragnel, bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Chef du service politique d'Europe 1. Là, on verra l'aspect politique. Tout ça, évidemment, est totalement lié à la campagne électorale qui est en train de se dérouler. Et on a un autre chef de service, le docteur Jamil Ramani. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service de réanimation, anesthésiste réanimation de l'hôpital franco-britannique. Céline Giraud, est-ce qu'on a déjà quelques pistes alors qu'on voit Jean Castex s'approcher du pupitre? On va écouter le Premier ministre tout simplement et on en débat ensuite.
Je veux ce soir partager avec vous un nouveau point de situation sur... l'évolution de l'épidémie qui frappe notre pays et faire un bilan des mesures que je vous avais annoncées le 27 décembre dernier que nous avons mises en place pour une durée initiale de 3 semaines qui s'achève donc dimanche prochain. Je veux aussi vous dire ce que sont les évolutions encourageantes qui commencent à se dessiner et sans rien ignorer des tensions qui s'exercent encore sur notre système de santé, vous précisez le calendrier dans lequel nous pourrons, courant février, lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain. La France, comme tous les autres pays européens, est frappée depuis maintenant près de 2 mois par une vague d'une ampleur exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle est alimentée par le cumul de 2 variants, Delta et Omicron, qui se sont non seulement succédés, mais en fait additionnés depuis la fin de l'année dernière. Exceptionnelle surtout en raison de l'extrême contagiosité du variant Omicron, dont on sait qu'il a déjà touché plus de 5 millions d'entre nous et probablement au moins le double si on ajoute le nombre estimé de ceux qui ne sont pas allés se faire tester faute de symptômes notables. Oui, notre pays traverse depuis quelques semaines une phase difficile. D'abord à l'hôpital où la tension reste forte, même si la mobilisation remarquable de nos soignants a permis jusqu'à présent de faire face chaque jour à des arrivées toujours importantes de malades. Mais également dans notre vie quotidienne avec le nombre spectaculaire des contaminations dues au variant Omicron. Peu de familles ont été épargnées avec tout ce que cela occasionne en termes de tests à réaliser pour les proches, de contraintes, d'isolement pour les malades et bien sûr d'angoisse quand des symptômes importants apparaissent. Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée. Mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement. La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement. Et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue. La deuxième nouvelle encourageante est que la vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où ce variant avait frappé en premier à la fin décembre. C'est en particulier le cas en Île-de-France où la décrue est maintenant engagée. Certes, ce que nous constatons en Île-de-France n'est pas encore vrai dans la plupart des autres régions métropolitaines où le variant Omicron est arrivé plus tard et où le nombre de contaminations continue de progresser. Je veux mentionner aussi la situation particulière des départements et territoires d'outre-mer qui connaissent des flambées épidémiques régulières où le niveau de vaccination est plus bas que dans le reste du pays, ce qui nous a conduit à proroger l'état d'urgence sanitaire. Mais cette évolution différente selon les territoires est classique, et donc ce qui se passe en Île-de-France décide une perspective rassurante et surtout cohérente avec ce que l'on observe au Royaume-Uni, où la région du Grand Londres a connu son pic 10 jours avant le reste du pays. La troisième nouvelle rassurante, c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Je sais que cet élément nouveau a pu conduire à se poser des questions. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de se faire vacciner ou de faire son rappel? Si, même vacciné, on peut attraper aussi facilement ce virus? Est-ce que, face à l'ampleur de la vague, il ne faudrait pas tout simplement laisser filer l'épidémie sans rien faire, ne prendre aucune mesure, ne plus se tester en cas de doute, ne plus s'isoler quand on est positif? Je vous le dis clairement, même atténué, ce virus n'a rien d'anodin. Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Un seul chiffre pour le démontrer, au cours d'une année normale, l'épidémie de grippe provoque en moyenne 10 000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver. Avec Omicron, nous atteignons ce chiffre non pas en 3 mois, mais en 5 jours seulement. Si nous avons pu traverser ces dernières semaines avec des centaines de milliers de contaminations chaque jour et des hôpitaux qui ont tenu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous avons pris les bonnes décisions, parce que nous sommes massivement vaccinés et que nos vaccins restent extrêmement protecteurs. Oui, les caractéristiques de ce variant font qu'on peut facilement attraper le virus en étant vacciné, mais là aussi, deux chiffres très parlants. Une personne complètement vaccinée a 4,5 fois moins de risque d'attraper la Covid et surtout 25 fois moins de risque d'être hospitalisé en soins critiques, c'est-à-dire avec des formes graves par rapport à une personne non vaccinée. Seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et pourtant, ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation au grand dam de nos soignants qui se battent au quotidien depuis 2 ans de façon admirable. Inlassablement, je me rends auprès d'eux, auprès des personnels des établissements de santé. J'y serai une nouvelle fois demain, puis encore après-demain. Le gouvernement déploie dans le cadre du Ségur de la santé des moyens inédits pour à la fois rattraper le retard accumulé depuis des décennies et donner à notre système de soins et à ses acteurs les perspectives dont ils ont besoin. On ne le dira jamais assez, la vaccination a changé la donne. Et nous devons poursuivre nos efforts en dépit des résultats qui nous placent grâce à une mobilisation exceptionnelle que l'histoire retiendra parmi les nations les mieux vaccinées et donc les plus protégées au monde. Plus de 93% des adultes ont reçu leur première dose, plus de 91% de doses ou l'équivalent, plus de 62% 3 doses ou l'équivalent. Mais nous devons encore poursuivre notre mobilisation. Nous devons en particulier faire progresser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui a démarré doucement. Même si je sais que beaucoup de parents hésitent encore, je veux leur dire que les autorités scientifiques sont très claires sur le bénéfice de cette vaccination et nous la faciliterons en autorisant davantage de lieux et de professionnels, y compris les pharmaciens et les infirmières, à pouvoir réaliser cette injection. Pour les 12-17 ans, l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques. Comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous, mais sans obligation, à compter de lundi prochain. Pour tous les autres, nous devons sans relâche poursuivre notre stratégie d'aller vers les non-vaccinés, en particulier les populations les plus éloignées du système de soins. Au-delà de la vaccination, notre stratégie de dépistage et les mesures de freinage prises le mois dernier ont été tout aussi utiles. Les simulations de l'Institut Pasteur ont montré que si nous n'avions pris aucune mesure, le nombre des entrées hospitalières au cours de ce mois de janvier aurait été 2 fois plus élevé, je dis bien 2 fois plus élevé. Grâce à la vaccination, grâce au pass sanitaire, nous n'avons pas eu à prendre des mesures aussi contraignantes que beaucoup de nos voisins européens. En particulier, nous avons préservé la continuité des activités, nous n'avons pas restauré de couvre-feu et nous avons fait le choix de laisser nos écoles ouvertes. C'est un choix fort, constant depuis le début de la crise sanitaire qui repose sur l'intérêt de nos enfants. J'ai parfaitement conscience que l'adaptation du protocole sanitaire à l'école a entraîné des difficultés pour les parents d'élèves, des difficultés pour nos enseignants et plus généralement pour toutes celles et ceux qui concourent au service public de l'éducation et de la petite enfance dans l'État, dans les collectivités territoriales et dans tous les établissements accueillant des enfants. Je veux leur répéter toute la considération du gouvernement et de la nation pour leur engagement et leur dévouement au service de l'école ouverte, au service des enfants de France. Avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé, j'ai reçu les représentants des personnels de l'Éducation nationale et nous avons apporté les correctifs nécessaires. Mais rien n'aurait été pire que de fermer les établissements scolaires, voire de retarder la rentrée. Car la réouverture, vu la flambée du nombre de cas, aurait été très difficile. Avant-hier, mardi, 17 037 classes étaient fermées. C'est beaucoup. Mais cela représente 3,2% des classes en France. 3,2%. Si, comme certains nous le suggèrent, nous avions fermé 100% des classes, je vous laisse déduire vous-même toutes les conséquences. Je suis convaincu que notre choix a été le bon. Tester. Tester pour ne pas fermer. Tester pour freiner l'épidémie. Plus de 12 millions de personnes se sont fait tester la semaine dernière. C'est un record absolu. C'est deux fois plus que lors de toutes les vagues précédentes. Et c'est nécessaire. Pour freiner Omicron, pour le faire reculer, il faut d'abord que les personnes contaminées le sachent et s'isolent pour ne pas diffuser le virus davantage encore. C'est la base de la lutte contre toute épidémie. Je veux remercier tous les professionnels qui ont contribué à cet effort de dépistage exceptionnel et qui continuent encore, et en particulier les pharmaciens de notre pays, mais aussi tous les acteurs, tous les professionnels qui nous ont permis d'ouvrir 425 nouveaux centres de dépistage depuis le début de l'année 2022. C'est également un effort à mettre au crédit de nos concitoyens qui jouent pleinement le jeu des autotests demandés aux personnes cas contact, avec plus d'un million d'autotests délivrés chaque jour dans nos pharmacies. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces éléments qui sont le résultat de nos efforts individuels et collectifs nous permettent ce soir de dresser des perspectives. Comme toujours, nous le faisons de manière progressive et cohérente. L'évolution de la situation nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février. Nous pouvons l'envisager parce que nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal que la représentation nationale a voté et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve bien sûr de la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Seules les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Je rappelle que le schéma vaccinal complet suppose de faire son rappel dans un délai de 7 mois après la dernière injection et que ce délai sera ramené à 4 mois à partir du 15 février, conformément à ce que nous avons déjà annoncé fin décembre. Nous veillerons à ce que cette évolution ne pénalise pas nos Français, nos concitoyens de l'étranger, qui devront pouvoir bénéficier rapidement d'une dose de rappel lorsqu'ils reviennent chez eux. Depuis l'annonce du pass vaccinal, plus d'un million de Français qui n'étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut amplifier ce mouvement. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide à deux conditions. Bien faire leur deuxième dose un mois plus tard et dans l'intervalle, justifiée également d'un test négatif de moins de 24 heures. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est une évolution nécessaire et cohérente. Elle est nécessaire si nous voulons préserver et amplifier notre couverture vaccinale, aussi bien aujourd'hui que demain en cas de nouveaux variants. Elle est cohérente car elle assume de faire peser clairement la contrainte sur les non-vaccinés et dès lors de pouvoir lever les mesures de freinage que nous avons prises pour contrer la dernière vague. Nous allons donc alléger les mesures en vigueur en deux étapes qui interviendront les mercredis 2 et 16 février. Ces délais devant permettre le déploiement en bon ordre du pass vaccinal et à nos hôpitaux d'absorber les effets du pic épidémique. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser. Nous consulterons, bien sûr, à cet effet, les autorités sanitaires. Je sais que cette perspective de reprise ou d'allègement était attendue. L'approche graduée et progressive que nous retenons appelle évidemment de la part de chacune et chacun un respect strict des règles du jeu jusqu'à leur terme. De même, nous maintiendrons évidemment jusqu'à ces échéances tous les dispositifs de soutien économique que subissent aujourd'hui l'impact de nos mesures. Je pense en particulier aux hôtels, cafés, restaurants, aux traiteurs, mais aussi au secteur de l'événementiel, du sport et de la culture que nous aiderons comme à chaque fois à passer le cap. Au-delà de quoi l'avenir sera-t-il fait sur le plan sanitaire? Cette question appelle forcément à l'humilité et à la prudence. Nos autorités scientifiques ne savent pas nous dire si le variant Omicron marque une étape décisive sur la voie d'une banalisation du virus ou bien si nous restons encore exposés au risque qu'apparaissent de nouveaux variants problématiques. Mon gouvernement a bien sûr la responsabilité d'anticiper toutes ces hypothèses. Pour cela, la France dispose désormais d'une gamme complète d'outils que la loi nous permet d'activer jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette capacité à agir ne signifie évidemment pas que nous sommes tenus d'activer ces mesures de restriction aussi longtemps que la loi nous y autorise. Cela n'aurait aucun sens. Il faut savoir réagir vite quand c'est nécessaire, mais il faut aussi savoir lever les mesures dès que les conditions permettent de le faire. Cela vaut aussi pour le pass vaccinal. Sa nécessité, je l'ai dit, ne fait aucun doute aujourd'hui, mais je veux être clair, le pass pourrait tout à fait être suspendu si la pression épidémique et surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement. Si nos services de réanimation ne voyaient plus arriver de nouveaux malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux n'étaient plus obligés de déprogrammer des soins, Si pression sanitaire redescendait au plus bas, alors nous serions amenés à lever le pass, tout en nous tenant évidemment prêts à le réactiver en cas de redémarrage. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, voici les orientations et les perspectives que je souhaitais partager ce soir avec vous. Nous sommes incontestablement dans une nouvelle phase de l'épidémie. Grâce à nos efforts collectifs, grâce à la vaccination, nous allons faire face à la vague en cours. Nous devons être confiants, tout en restant très vigilants, respectueux des autres et des consignes collectives, mobilisés et plus que jamais solidaires. Je vous remercie et nous allons maintenant avec Olivier Véran, ministre.
Voilà donc pour ces annonces de Jean Castex, le Premier ministre que nous avons vécu en direct sur Europe 1. Céline Giraud, alors il y a tout un calendrier. Cette fois-ci, c'est très précis, c'est très clair. Ça commence dès les premiers jours de février. Expliquez-nous.
Absolument. Alors, il y a deux temps. Hein. On va faire la synthèse hein, des restrictions, des mesures de restriction qui vont être allégées en deux temps. Vous l'avez dit, le mercredi 2 février, fin des jauges. C'est important. Hein, les grands établissements pouvant recevoir du public, les stades, les établissements culturels, le port du masque reste obligatoire. Évidemment, on peut penser au France-Italie, ouverture du tournoi Destination qui se joue le 6 février, qui pourra donc se jouer avec un stade de France plein, ou le Real Madrid face au PSG, donc au Parc des Princes le 8 février, qui là aussi pourra se jouer en pleine capacité. Donc fin des jauges, fin du masque, et à partir du 16 février, eh bien réouverture des discothèques, reprise des concerts debout, consommation à nouveau possible dans les stades, cinéma et transports. Consommation aussi debout dans les bars. On en a beaucoup parlé. Au niveau de l'éducation, protocole scolaire sans doute allégé, mais là plutôt après les vacances de février. Alors, il s'agira sans doute du port du masque dans les classes plutôt élémentaires et là aussi du nombre d'autotests qui pourraient être réalisés dans ces écoles. Le deuxième chapitre, il concernait l'application du pass vaccinal et là, ce sera donc dès lundi prochain, sous réserve évidemment de la validation par le Conseil constitutionnel demain. Pour les plus de 16 ans, ce sera désormais obligatoire pour aller au restaurant, au théâtre, dans les stades, évidemment, et prendre les transports. L'exception existe toujours pour aller dans les hôpitaux, les EHPAD, les établissements médico-sociaux. On maintient le pass sanitaire, en revanche, pour les 12-15 ans. Et puis, pour inciter, évidemment, à la primo-vaccination, il en a parlé, l'activation du pass vaccinal possible dès la première injection, si on va se faire, évidemment, injecter la fameuse dose, primo-injection, dès le 15 février, sous deux conditions. Un test de moins de 24 heures pour accéder aux différents lieux soumis à pass. Et puis, une deuxième injection qui doit être réalisée dans un mois suivant la première. Voilà, en substance.
Un premier commentaire rapide, docteur Amani, on y reviendra.
Bah, écoutez, c'est ce qu'attendaient les Français. Hein. C'est un allègement de ces mesures que certains jugent liberticides, mais c'est aussi une prise de risque, hein, parce que l'épidémie n'est pas en train de décroître de façon importante. Nous avons toujours les hospitalisations en hospitalisation conventionnelle qui augmentent. Certes, en réanimation, elles ont diminué, elles remontent un peu en Île-de-France. Donc, ça n'est pas encore la grande éclaircie, la grande embellie.
D'accord. Louis de Ragnel, il y a beaucoup de politique, évidemment, aussi dans tout cela.
Ah, il y a une dimension politique très forte. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron a dit plusieurs fois ces dernières semaines qu'il conditionnait l'annonce de sa candidature à la présidentielle au fait que l'épidémie baisse. Que vient de faire le Premier ministre ? Bien, il vient d'expliquer que l'épidémie est en train de baisser. Donc là, l'objectif du Premier ministre et à Matignon, c'est de solenniser un peu le moment, si je puis dire, alors que pourtant ce sont des mesures quand même très techniques, mais en tout cas de préparer le terrain pour permettre au président de se déclarer dans les 10-15 prochains jours. On voit donc que c'est des messages quand même d'optimisme. Il y a une volonté de la part de Jean Castex de vanter son bilan, expliquer qu'il y a eu une bonne gestion, que tout a été fait en très bonne intelligence, que non. Tout le monde peut se satisfaire, on peut tous s'applaudir. Laurence, Céline, on peut tous autour de ce plateau s'applaudir, se dire bravo, parce qu'on a tous été exemplaires. Ça, c'est le message du Premier ministre. Et donc, l'heure n'est absolument plus au Premier ministre sévère qui dit attention, on va sévir si vous ne respectez pas les consignes. Donc, en gros, le message, c'est il y a encore deux semaines d'efforts, et puis ensuite, tout ira mieux pour les Français. On va relâcher la pression, tout ira mieux pour les Français, mais aussi pour Emmanuel Macron. Non, mais parce que ça ne vous a pas échappé.
Du teasing, là.
une petite période présidentielle.
On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant. On continue à décrypter ce calendrier qui vient de nous être annoncé par le Premier ministre avec cet allègement des mesures étalé entre le 2 et le 16 février avec la réouverture des discothèques, la consommation dans les lieux publics. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec Jamil Ramani, le docteur Ramani, chef du service de réanimation de l'hôpital franco-britannique. Et nous sommes avec Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Alors, ça y est, on a le calendrier, ce fameux calendrier qui a été annoncé sur Europe 1 par Jean Castex. Ça se décompose en deux temps, Céline, 2 et 16 février. Et après le 16 février, qu'est-ce qui va s'alléger en un mot pour nos auditeurs?
Après le 16 février, sans doute du côté de l'école, évidemment, on aura le protocole scolaire qui sera allégé. On va rappeler peut-être les mesures, hein, les deux temps. 2 février, fin des jauges dans les établissements pouvant recevoir du public, les stades, les établissements culturels. Mais le port du masque reste obligatoire. La fin du masque obligatoire, en revanche, en extérieur. Et puis le télétravail reste recommandé, mais plus obligatoire, c'est-à-dire les 2 à 3 à 4 jours actuellement en vigueur vont sauter. À partir du 16 février, là, deuxième temps, réouverture des discothèques, reprise des concerts debout, consommation à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports. Et puis la consommation debout dans les bars sera à nouveau possible.
Docteur Ramani, on a évidemment ces mesures d'allègement, on nous offre un horizon, 2 et 16 février, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
Non,
on
n'est
encore dans le cœur de l'épidémie.
On est encore dans le cœur de l'épidémie. Hier, on avait 436 000 cas et on a entre 200 et 300 morts par jour, ce qui est considérable. C'est comme si un avion s'écrasait tous les jours. Donc, ce sont des mesures qui me semblent plus politiques que sanitaires.
Elles sont imprudentes, ces mesures? C'est ce que vous nous dites?
C'est une prise de risque. Je préfère dire que c'est une prise de risque. Et clairement, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une augmentation continue des hospitalisations en hospitalisation conventionnelle, une diminution des hospitalisations en réanimation, sauf aujourd'hui où elles ont un petit peu augmenté hier en Île-de-France. Donc, il faut être extrêmement prudent et il faut dire aux gens qui ne sont pas vaccinés, effectivement, de se vacciner, car la vaccination protège de façon effective et très importante contre les hospitalisations et contre les formes graves, et de se protéger avec le masque dans les endroits où il y a beaucoup de gens, parce que le risque de contamination est très important avec ce variant Omicron.
On va revenir sur ces primo-vaccinés, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, 27% des Français, a rappelé le Premier ministre. On va en parler dans un instant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais rajouter simplement que les membres du Conseil scientifique, ceux-là même qui conseillent l'exécutif dans sa gestion de la crise, ont tenu à porter, juste avant les annonces du Premier ministre, un double message d'espoir et de prudence. Ils disent qu'il faut rester vigilant en matière de gestes barrières, se vacciner pour permettre aux hôpitaux de supporter la vague. Et surtout, ils disent qu'elle n'est pas terminée et son retentissement sur le système de soins va rester élevé, mais en partie gérable, et ce jusqu'à la mi-mars. Voilà ce que dit le Conseil scientifique ce soir.
La tension sur l'hôpital est très importante. Mon service est plein. Il y a 25% de Covid et on a un service qui a été entièrement dédié au Covid, qui est quasiment plein. Un service d'hospitalisation conventionnelle, on a annulé des interventions chirurgicales, on a annulé des programmations pour pouvoir ouvrir ce service. Donc la tension est très importante. C'est 70% des lits de réanimation en Île-de-France qui sont occupés par du Covid.
On voit quand même, Louis de Ragnel, que dans le ton, dans la façon dont Jean Castex a présenté les choses, qu'il y avait une dose d'optimisme voulu, peut-être surjoué, mais on veut nous faire passer le message que les jours heureux sont pour bientôt, c'est ça, hein ?
Absolument, et que la liberté va bientôt être retrouvée pour tous. Oui, il y a cette volonté de donner de l'optimisme, parce qu'il faut quand même se souvenir je pense que tout le monde dans son quotidien a quand même en souvenir ces deux dernières années, avec quand même une succession d'annonces assez négatives, des restrictions de liberté. Et même, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des auditeurs qui nous écoutent, qui vivent avec toutes ces mesures et qui savent, on sait même plus parfois comment est-ce que c'était avant. Et donc il y a cette volonté quand même de la part du gouvernement de dire voilà, bientôt en fait, tout ce que vous avez connu, tous ces mauvais souvenirs sont derrière vous, mais toujours quand même, certes pour le bien des Français, mais aussi avec cette volonté politique d'aider et de servir Emmanuel Macron pour sa rampe de lancement pour pouvoir se présenter. Je tiens juste à souligner une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'en fait Jean Castex aussi dans son intervention a voulu déminer les accusations contre l'utilité du pass vaccinal. Alors, ça a fait un immense débat à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Au Sénat, qui est tenu par la droite, et avec notamment, à droite, le Sénat insistait pour demander quand est-ce que le pass vaccinal allait s'autodétruire, quand est-ce qu'on allait enfin pouvoir sortir
c'est comme mission impossible, hein.
de cela. Voilà. Et donc, Jean
ça
Castex,
s'autodétruit au bout de 30
et Jean
secondes.
Castex a essayé de répondre avec ses mots, en expliquant qu'en fait, c'était une sorte de bouclier qui permet... qui peut être activé un peu à tout moment et qui permet d'être activé jusqu'à la période de la fin de l'état d'urgence, donc en juillet. Et il a bien expliqué que ce pass serait levé dès que la situation sanitaire le permet. Donc il y a cette volonté de dire avec ces mots-là aussi, nous, on fait tout pour éviter l'enfermement, parce que Emmanuel Macron a été beaucoup accusé d'enfermer les gens, le président enfermé, c'est quand même des choses qu'on a beaucoup entendues. Et donc il y a cette volonté d'expliquer que le gouvernement fait tout pour permettre aux Français de retrouver leur liberté. Donc tout ça, évidemment, encore une fois, a une dimension très politique pour essayer de faire en sorte que le gouvernement est responsable, si vous voulez, du bonheur retrouvé des Français.
Et de la santé mentale des Français, parce que c'est important de se projeter, d'avoir des échéances. Et là, on peut imaginer que tous les Français vont commencer à cocher les cases. C'est J-15, J-3 semaines.
On allait pouvoir prendre une bière debout dans un bar, par exemple.
Ou un café, je vous rassure. Il y a des cafés aussi.
Non, mais périer même.
Et le fait d'avoir une échéance, c'est important. Et je pense qu'ils se sont sans doute inspirés aussi de l'exemple anglais, puisqu'on l'a vu.
Ils ont tout levé aujourd'hui, presque.
Voilà. Jeudi, oui, c'est ça, il n'y a plus de masques, plus de passes vaccinales.
Oui, mais il y a quand même 300 morts par jour en Angleterre. Alors,
est-ce qu'ils sont pas d'inconscience, les amis britanniques ou pas?
Bah, écoutez, vous savez bien que Boris Johnson est dans une situation très délicate au plan politique, qu'on lui reproche d'avoir fait des tea parties alors que les Anglais étaient confinés. Et il a trouvé comme parade une mesure populaire, celle de tout déconfiner, celle d'arrêter l'enfermement des Anglais.
Donc, c'est un peu imprudent, on va se le dire comme ça.
Ah oui, c'est imprudent.
Ils sont passés sous la barre des 100 000 cas, ils ont des indicateurs qui sont...
Et nous, on est à 400
000. Il y a quand même un élément d'inquiétude qui nous vient du Danemark. Il y a un sous-variant Omicron qui s'appelle le BA2, et qui a, alors qu'il y avait un petit palier au Danemark il y a quelques jours, les infections
nous
ont repris.
Nous annoncez pas un nouveau variant, là, docteur.
Les infections ont repris et les infections flambent
à nouveau
au Danemark.
Comment il s'appelle, celui-là?
BA2. C'est l'Omicron BA2.
C'est sympa, ça, Omicron BA2. Non, je voulais juste vous poser une question, parce que je vois que vous êtes un petit peu inquiet. Vous trouvez que le gouvernement relâche la bride un peu trop vite. Moi, pour ma part, à titre personnel, je me satisfais de voir qu'on va enfin pouvoir retrouver notre liberté. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors? Concrètement, si vous étiez au gouvernement aujourd'hui,
clairement, ne pas donner de message optimiste trop puissant, parce que on n'a pas les données encore. Comme le dit le Premier ministre, il faut rester humble et l'humilité veut qu'on soit prudent. Et la prudence veut qu'on ne dise pas aux Français lever toutes les barrières. Il faut conserver une certaine prudence.
Ça veut dire deux semaines d'effort encore, puisque mercredi,
encore quelques semaines.
Mais vous êtes française comme moi, Céline.
Oui.
À partir de ce soir, vous vous dites que, en fait, tout est terminé.
Bah, bien sûr.
Non, c'est pas responsable.
Céline, est-ce que vous pensez un seul instant que ce soir, les Français vont se dire on va encore attendre deux semaines?
Mais non. Ils ne vont pas faire autrement.
Et le message d'optimisme.
Non, le message.
Les jauges, on va les garder.
Je rejoins dans le mauvais sens ce que vous vous dites, selon vous. C'est effectivement ce message d'optimisme du Premier ministre va être interprété assez rapidement. Et je pense que beaucoup de Français vont se dire, ça y est, maintenant, c'est derrière nous. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que par rapport à votre analyse, au gouvernement, il y a beaucoup de conseillers autour d'Emmanuel Macron et de Jean Castex qui nous disent depuis quelques jours, ça y est, c'est derrière nous, c'est terminé.
Et des médecins le disent aussi.
Et on passe à autre chose. Là, on essaye d'appeler quand même à la prudence, parce que la décrue se poursuit lentement dans les services de réanimation. L'objectif, c'est surtout qu'il n'y ait pas de surcharge dans les lits de réanimation. On va laisser la décrue se faire. Mais pour eux, c'est terminé, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, tout leur esprit, tout leur cerveau et tout leur cœur est mobilisé maintenant pour la campagne
présidentielle. Non, mais pour l'instant, ça n'est pas terminé, puisqu'on a un nombre de contaminations qui est très important, on a un nombre d'hospitalisés en hospitalisation conventionnelle qui est très important et qui continue de grimper, on n'est pas encore arrivé au pic, et donc dire aux gens, vous allez pouvoir revivre comme avant, ça me paraît un peu prématuré.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On va revenir sur l'autre grande mesure annoncée par Jean Castex, c'est-à-dire ce pass vaccinal qui sera lui en vigueur dès lundi 24 janvier. Qu'est-ce qu'il va nous empêcher de faire ou pas ? À qui sera-t-il réservé ? Et puis surtout, la grande question, je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris ce qu'a dit le Premier ministre, quand est-ce qu'il va être levé, ce pass vaccinal ? On en débat dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1, avec le docteur Jamil Ramani, chef du service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital franco-britannique, tiens ça tous, et Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Bah écoutez, alors Jean Castex, à propos du pass vaccinal, il va entrer en vigueur lundi 24 janvier, écoutez bien.
Nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal, que la représentation nationale a voté, et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve, bien sûr, de la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif.
Voilà, donc pour ces explications, sur ce pass vaccinal, Céline, qui peut l'avoir aujourd'hui ?
Alors, le pass vaccinal est donc réservé à ceux qui ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire deux doses plus le rappel, on le précise. Si vous n'avez que deux doses et vous n'avez pas respecté ce fameux délai de 7 mois maximum, en gros, si vous avez commencé à vous faire vacciner, comme la plupart des Français, entre le mois de mai, juin, juillet, vous commencez à être un peu dans le rouge. Vous avez d'ailleurs sur votre application Tous Anti-Covid, un petit message d'alerte qui s'affiche si vous y allez. Donc, c'est un schéma vaccinal complet qui il entre en vigueur à partir du 24 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, donc pour les plus de 16 ans, pour aller au restaurant. Exception, évidemment, pour aller dans les hôpitaux, on le rappelle, les EHPAD. Maintien du pass sanitaire pour les 12-15 ans. Et la question qui nous interroge aujourd'hui, c'est la nouvelle possibilité pour inciter justement à la primo-vaccination. Absolument. L'activation du pass vaccinal sera possible dès la première injection. Si on va faire sa première injection avant le 15 février et sous deux conditions, il faudra un test de moins de 24 heures pour accéder aux différents lieux soumis à pass, plus la deuxième injection, mais dans un délai réalisé sous un mois. Très court.
Donc ça veut dire, docteur Ramani, qu'on va pouvoir faire, pour ceux qui ne sont pas du tout vaccinés, la première dose et la deuxième dose en moins d'un mois. Oui, c'est pas risqué ?
Non. Non.
Mais je vais poser la question quand même, parce que nous, on nous a dit au moins 7 mois de.
Clairement,
mois, après 4 mois.
Non, mais clairement, non. Il y a certains pays qui mettent 3 semaines entre oui. deux injections. Non, franchement, il n'y a pas de risque. Alors, ce qu'il faut ajouter.
Et ça peut décider des gens, là, cette histoire de. On peut avoir le pass vaccinal si on fait la première dose ?
Je pense oui, parce que c'est l'assignation à résidence, quand même. Hein. Mmh. Vous ne pouvez plus rien faire si vous n'êtes pas vacciné. Alors, il faut ajouter une chose, c'est que quand vous avez eu deux doses, que vous avez attrapé la Covid après les deux doses, vous êtes tranquille pendant 6 mois.
Si vous avez fait un PCR, voilà.
Non, vous êtes non, mais vous êtes tranquille. Oui, bien sûr.
Le pass vaccinal
sera valide parce que vous aurez un certificat de guérison. Il aura bien sûr avoir été testé et avoir eu une PCR positive.
Oui, c'est ça. Le fait d'avoir été contaminé,
ça équivaut à vaccination.
Voilà, c'est ça.
Un épisode
vaccinal. Il faudra quand même faire une troisième dose pour
quand
ces personnes-là.
En fait,
les 7 mois dont vous parliez, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Je suis désolé,
vous avez reçu deux vaccinations. Mm-hmm. Vous attrapez le Covid. Mm-hmm. Eh bien, vous êtes tranquille pour le pass vaccinal pendant 6 mois.
Mais vous devez faire votre rappel.
Ensuite.
Après 6 mois. Absolument. Après, Alors que si vous avez été contaminé par le Covid après la première injection, vous êtes exempté d'une dose et vous ne pouvez faire qu'une troisième dose, qui correspond donc à une deuxième dose pour vous. Voilà.
Bon. Bah, c'est clair pour tout le monde ou pas ?
Oui.
Louis, je ne suis pas sûre que vous avez tout.
Je crois que j'ai à peu près compris, mais...
Bon, très bien.
Mais reconnaissons quand même qu'avec toutes ces mesures, c'est quand même...
Une infection.
Quand même tout noter précisément pour tout retenir.
À une dose.
À une injection.
Voilà. Injection.
Mais ce qui est clair, c'est qu'on rend la vie impossible aux non-vaccinés. Avec ce pass vaccinal.
Ah,
je ne vais pas dire l'autre mot, hein, parce que, évidemment, mais...
On les assigne à résidence.
Et qu'ils ne pourront aller nulle part, ni au resto, ni prendre les transports en commun, c'est ça. Hein,
oui.
Quand on n'a pas le pass vaccinal, on ne pourra rien faire.
Ben on, on pousse
faire ses courses.
On pousse un peu les gens au désespoir. Hein. Mm-hmm. Il y a des gens de toutes les manières qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon. Moi, j'ai deux nièces qui ne veulent pas en entendre parler.
Qui vont attendre la fin du pass vaccinal.
Voilà.
Céline. Pour les centres commerciaux, ce sera soumis au préfet, je crois. C'est chaque préfet qui aura la possibilité de choisir si les centres commerciaux sont.
Vous imaginez quand même.
Sont soumis au pass vaccinal.
Non, mais on imagine bien que pour les produits de première nécessité. Évidemment, le gouvernement. Enfin, d'ailleurs, la mesure sera jugée inconstitutionnelle. Oui, elle sera retoquée parce que vous pouvez pas, pour le coup, priver quelqu'un d'accéder à ce qui est le plus élémentaire, acheter de la nourriture et
au bien de première nécessité, bien sûr.
Bon, donc on a bien compris. Là, il y a ce truc en deux temps. Il y a les allègements des mesures de restriction, ce bazar, si vous préférez, le pass vaccinal. Et au milieu, on a un petit delta, mon cher Louis de Ragnel, pour que l'annonce de candidature du président Macron tombe à pic.
Exactement, voilà, donc là tout l'objectif c'est de préparer le terrain aux bonnes nouvelles. Donc l'objectif à l'Élysée, c'est la consigne a été passée, les polémiques comme celle que nous a offerte Jean-Michel Blanquer cette semaine, c'est terminé. Donc maintenant, les ministres ont été priés d'être raisonnables dans leur vie privée, pendant les week-ends absolument.
Il y a eu une consigne
parce qu'Emmanuel Macron veut surtout pas déclarer sa candidature en pleine polémique ou à un moment donné où il y a par exemple une polémique dans le débat qui est suscité par un ou une ministre. Voilà. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la candidature d'Emmanuel Macron apparaisse comme la plus naturelle possible, ce qui en fait veut dire que le président, s'il veut que ce soit un glissement qui apparaisse comme évident pour les Français, c'est-à-dire qu'il est déjà en campagne aujourd'hui. La semaine prochaine, il sera en déplacement, si ma mémoire est bonne, dans la Creuse. L'objectif, c'est vraiment d'aller visiter les campagnes, envoyer des messages au terroir, aller dans des endroits où, dans lesquels il y a des déserts médicaux, des zones blanches. Et puis ensuite, il y aura à nouveau une autre séquence, parce que vous savez, maintenant, on parle de séquence dans la vie politique. C'est un peu comme une série Netflix. Si on veut être un peu cynique, bien sûr. Je me trompe de crèmerie. Et ensuite, il y aura une séquence aussi assez importante sur l'immigration. Parce que, figurez-vous, les derniers chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur ne sont pas bons. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, qui hier à Bruxelles a fait des annonces sur la réforme de Schengen, c'est une réforme qu'il appelle de ses voeux depuis le début de son quinquennat. Donc il a un besoin, pour le coup, vis-à-vis de la droite, de montrer qu'il est crédible et sérieux sur ces questions-là. Voilà. Et ensuite, passer ce déplacement sur l'immigration, eh bien, il devrait annoncer naturellement, en tout cas ce sont les mots de l'Élysée, sa candidature.
Comme l'immunité.
Oui, je voulais dire juste un petit mot sur la polémique Blanquer. Écoutez, aller à Ibiza au mois de janvier, ça n'a rien d'extraordinaire. Ibiza au mois de janvier, ça n'est pas une île de perdition. Et la consigne était de ne pas dépasser 2 heures de trajet en avion pour les ministres. Eh bien, il n'a pas dépassé les 2 heures de trajet en avion. Et ce pauvre homme avait le droit d'aller se détendre à n'importe où dans les 2 heures, à 2 heures de Paris.
Très bien, ça c'était pour la polémique Blanquer. Voilà.
D'ailleurs, à sujet de l'éducation, on a eu quand même quelques pistes. Ce soir, le protocole scolaire sera probablement allégé à la rentrée des vacances de février, donc après ces vacances d'hiver, notamment concernant le port du masque en élémentaire. C'est important pour les petits qui vivent avec ça.
À l'extérieur ou à l'intérieur ?
Voilà. C'est là toute la question, ça n'a pas été précisé. Voilà, en classe ou dans la cour de récré, comme ce masque est revenu. Et également sur le nombre d'autotests à réaliser par les enfants dès qu'ils sont cas contact dans ces classes. Et on attend également aussi des informations concernant le report des épreuves de spécialité du bac qui risque fort d'être reporté de mars à juin. Et là aussi, comme on a l'ouverture de Parcoursup aujourd'hui pour les étudiants, beaucoup d'incertitudes. Mais je crois que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. On était moins sur les sujets qui concernent l'école que le pass vaccinal et les jauges.
Docteur Hamani, sur ces 3 autotests qu'il faut faire, encore une fois, à nos enfants, est-ce que ce n'est pas un peu du délire quand même ? Vous vous rendez compte ce que c'est de maintenir un enfant qui hurle, qui gesticule pour ne pas qu'on lui fasse ces 3 autotests ? Est-ce qu'on ne peut pas alléger ça ?
Écoutez, moi, mon avis, c'est qu'on devrait alléger les tests, c'est qu'on devrait ne plus tester toute la population, faire des millions de tests maintenant, alors qu'on sait que l'Omicron se diffuse largement, qu'on va tous attraper l'Omicron. Il serait plus judicieux, comme les sondages, de faire des tests sur des populations représentatives, limitées, pour éviter d'avoir à dépenser des fortunes. 1 milliard d'euros, quand même, ont été dépensés.
Par mois.
1 milliard d'euros, vous imaginez ?
C'est 1,7 milliard en décembre et 1,3 milliard en janvier.
C'est considérable.
Quand on sait que le Ségur de la Santé, c'est 8 milliards, c'est ça ?
Donc, c'est vrai qu'une page est en train de se tourner. Pourquoi ? Parce que toute la planète va être massivement contaminée. Donc, toute la planète va avoir une immunité et va se rapprocher de cette ligne bleue des Vosges, qu'est l'immunité collective. Mais vous savez, les marchés ont sanctionné les vaccins. Il y a quelques semaines, les grandes valeurs de vaccins, Novavax, Valnevax, se sont effondrées parce que les marchés parient sur l'immunité vaccinale naturelle conférée par Omicron.
Que les marchés vous entendent.
L'immunité vaccinale naturelle ?
L'immunité
naturelle.
Naturelle.
Ah oui, parce que l'immunité
quasi,
vaccinale.
Non mais, ouais. Le vaccin naturel représenté par l'Omicron. Bon.
Sauf s'il y a votre D2R2, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, là, votre nouveau variant, là. Non, comment vous l'avez appelé ?
Star Wars, c'est BA2.
BA2.
Mais si je peux vous rassurer sur une chose, à l'Élysée, la consigne est assez claire, l'objectif c'est de baisser les tests parce qu'ils se rendent bien compte maintenant que la stratégie qui avait été mise en place a participé aussi à faire peur à beaucoup de gens, à dramatiser un peu cette situation. Et puis moi je rejoins, parce que ce que vous disiez en filigrane, Laurence, c'est que c'est un enfer pour les enfants.
Oui, c'est
leur, de leur, enfin moi je parle de vécu également, et où en fait on force des enfants.
Mais en plus maintenant,
on est obligé de les gronde parce qu'ils refusent de faire quelque chose alors qu'ils n'ont rien fait de mal en soi, parce que c'est très désagréable pour un enfant de se faire injecter ça dans le nez.
Tester, tester, isoler. Or on teste, mais on peut pas tracer et on n'isole plus.
Bon. Alors maintenant, on se pose la question de tester. Merci beaucoup,
merci
Céline, d'avoir participé à cette édition spéciale dans Punchline, Louis de Ragnel et
Dr. Ramani.
Merci. Écoutez le Premier ministre Jean Castex. Bonne soirée à vous tous sur Europe 1. Dans un instant, ce seront les informations de 20h avec Alexandre Demers. Et ensuite, Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.